7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, à quoi servent les diasporas africaines? Autrefois, les immigrés rêvaient de construire une école dans leur village d'origine. Maintenant, ils ambitionnent souvent de monter une entreprise. C'est probablement un raccourci, mais les temps ont changé, c'est vrai. En témoigne ce forum des diasporas qui se tient aujourd'hui à Paris, au Palais des Congrès. Un véritable forum économique qui réunit pour la première fois des membres de toutes les diasporas d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, qui représentent 3,5 millions de personnes tout de même en France. Selon un récent rapport de la Banque mondiale, avril dernier, les transferts vers l'Afrique subsaharienne se sont accélérés pour atteindre 38 milliards de dollars en 2017. C'est beaucoup plus que les aides publiques au développement des pays riches. Une contribution qui a augmenté de 36% en 10 ans. Alors au-delà de l'aspect purement financier, quel peut être le rôle des diasporas pour développer l'Afrique? Comment a-t-il évolué ces dernières années avec notamment une nouvelle génération d'entrepreneurs? On va en discuter avec nos invités. Stéphanie Assaré, bonjour.
Bonjour.
Stéphanie, vous êtes née en France de parents ghanéens, secrétaire générale de Welcoming Diaspora. C'est une organisation à but non lucratif qui a été créée par des afro-optimistes issus de la diaspora dont vous faites partie.
Tout à fait.
Vous nous direz quand même ce que c'est véritablement un afro-optimiste?
C'est tout simplement croire que l'Afrique peut être plus responsable, plus solidaire, plus forte, que finalement elle peut être aussi puissante que tous ces autres continents, que ce soit l'Europe, l'Amérique, que, voilà, que l'Afrique, c'est pas un continent où il n'y a plus d'espoir. Au contraire, c'est le continent du futur.
En voilà. Dépit de ce que peut parfois montrer les images de l'actualité. Atoumata Magassa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née en France de parents maliens. Vous êtes spécialiste du financement et de l'accompagnement des start-up et entreprises africaines à Bondinov. Bondinov, c'est un incubateur qui a été créé par la ville de Bondy en région parisienne avec d'autres partenaires. Vous nous en parlerez, bien sûr. Mamadou Diagne Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes guinéen, créateur du champagne Diagne Diallo. D'ailleurs, c'est comme ça maintenant que vous voulez qu'on vous appelle. On a enlevé le prénom. Hein. Diagne Diallo, un champagne assemblé en France, commercialisé en Afrique et aux Antilles. Votre champagne que vous aimez appeler champagne africain a un an.
Un an africain, oui.
Pas banal. Hein. On sera également en ligne avec Samir Abdelkrim, qui est fondateur de la start-up BRICS, une société spécialisée dans l'innovation en Afrique. Il a publié aussi Startup Lions pour raconter différentes aventures entrepreneuriales. Et quant à vous les voisins, si vous êtes dans la diaspora, dites-nous quels sont vos projets pour votre communauté et pour ceux qui sont en Afrique. Quel regard vous portez sur ces hommes et ces femmes totalement biculturels, des produits de la mondialisation mais qui savent où ils veulent aller?
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein?
Je vous ai dit de nous appeler, j'ai pas donné le numéro de téléphone. Ça peut servir, c'est le standard. Également sur WhatsApp, gratuit, donc 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi laisser des messages audio. Et en fin d'émission, on aura la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Alors on prend un premier auditeur, une voisine. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Daniel, vous avez 28 ans, vous appartenez à la diaspora camerounaise en France, c'est bien cela?
C'est bien.
Vous pouvez juste nous donner en quelques mots votre parcours personnel?
Alors, je suis arrivée en France en 2007, après mon bac. J'ai fait mes études supérieures en France, à Lille plus précisément, et j'ai été diplômée de deux masters, un en comptabilité, contrôle audit et un en stratégie et management.
Mmh. Et comment
suite de cette formation, j'ai enchaîné sur mon premier emploi.
Et vous travaillez dans quel secteur aujourd'hui?
Je travaille dans le secteur de l'aide internationale. Je travaille dans une ONG qui finance des projets de développement et d'entreprises sociales en Afrique et un peu partout dans le monde.
Daniel, alors comment vous voyez aujourd'hui l'évolution des diasporas africaines? Comment vous, quel rôle vous attribuez, vous?
Je suis aussi, comme votre invité, une afro-optimiste. J'ai l'impression que le retour en Afrique, l'investissement en Afrique est de plus en plus à la mode. Je pense que nous, les jeunes générations qui ont eu l'opportunité de faire des études et acquérir des savoirs et des compétences forment sont en première ligne dans cet effort de développement de l'Afrique. J'avais partagé avec votre collègue deux aspects, notamment le financement, comme on voit se développer un peu partout à destination de projets en Afrique ou pour les Africains.
Ouais. Vous avez dit au standard, on doit être des business angels. Enfin bon, faut avoir les moyens quand même.
Bien sûr, on a aussi l'avantage, la diaspora, d'être dans des pays qui travaillent, et nous travaillons avec une monnaie forte par rapport au franc CFA, ce qui permet de faire beaucoup plus avec les euros ou les dollars qu'on a en France.
Daniel, vous avez une famille élargie en France de votre communauté, des cousins, etc. Est-ce que y en a qui veulent rentrer comment se positionne-t-il dans la diaspora en France?
En fait, il y a donc deux positionnements. Il y a celui de ceux qui sont là pour des raisons professionnelles ou personnelles, ne peuvent pas rentrer, du moins pas dans le court, voire moyen terme, et qui se constituent en groupe, en association, en tontine, pour financer des projets justement en Afrique. Ça peut être le développement d'écoles, ça peut être des business.
Donc ils gèrent des projets à distance?
Oui, ils gèrent des projets à distance. Il y a aussi des structures qui se développent en Afrique pour essayer de capter ces capitaux-là et de les aider à la gestion de ces projets. Sinon, il y a aussi un autre positionnement de plusieurs de mes cousins, mes amis, qui se préparent pour un retour au Cameroun. Avec des allers-retours fréquents, l'entretien du réseau des anciens camarades de classe qui sont encore au Cameroun.
C'est un vrai sujet de conversation, ça aussi, rester ou rentrer. Merci à vous, Daniel, de nous avoir appelé. Un autre auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Philippe à Abidjan. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Emmanuel.
Philippe, alors vous êtes un ex-membre de la diaspora ivoirienne en France.
Tout à fait.
Voilà, mais aujourd'hui vous n'êtes plus un membre de la diaspora, vous êtes un repat.
Oui, c'est ça, exactement, c'est bien dit, c'est bien décrit.
Dites-nous comment sont perçus les Ivoiriens de la diaspora maintenant que vous êtes rentré en Côte d'Ivoire?
Je dirais qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette diaspora-là. On espère qu'ils ramènent de l'expérience pour certains, qu'ils ramènent du financement pour d'autres, mais il y a beaucoup d'attentes, que ce soit de la population ou même des autorités, du retour de cette diaspora, de sa contribution au développement de notre pays.
Et votre regard à vous, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, ou enfin retourné de l'autre côté?
Oui, je pense que c'est vraiment utile. Quand je prends mon exemple personnel, je pense déjà en termes d'expérience, en termes de vécu. Quand vous finissez d'emmagasiner une expérience, une formation en France, vous faites 4-5 ans comme c'était mon cas, et que vous revenez au pays tout de suite, vous réussissez à apporter quelque chose, ne serait-ce que dans la façon de manager, dans la façon de voir, d'orienter les actions de votre entreprise ou même de votre milieu professionnel. Je pense que c'est vraiment quelque chose de profitable pour nos pays.
Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir appelé d'Abidjan. Stéphanie Assaré, Atoumata Magassa et Diane Diallo. Est-ce que vous avez, Philippe a dit, on attend beaucoup de la diaspora, des diasporas. Est-ce que parfois vous avez le sentiment qu'on attend trop de vous aussi ou pas, Diane Diallo?
Oui, moi je dirais oui, effectivement. J'ai eu l'opportunité d'être invité récemment par l'OIF, la francophonie en Guinée-Conakry, en tant que témoin, grand témoin de la réussite, pour effectivement motiver la jeunesse guinéenne à entreprendre, surtout dans l'agriculture et dans l'agro-business en particulier. Et là, quand je suis sorti de la salle de conférence, il y avait une centaine de jeunes qui m'attendaient dehors pour prendre des photos avec moi, parce que j'étais devenu leur un modèle pour eux, effectivement un modèle de réussite en Occident. Et ils attendent de nous justement ce retour sur le continent de financement, dans un premier temps, pour faire évoluer la structure localement, pour transformer des produits locaux, effectivement, et surtout aussi une expertise. Une expertise pour pouvoir proposer des produits valorisants et des emballages vraiment qui valorisent les produits surtout.
Mais parfois, ce poids-là est un peu lourd à porter pour vous en tant que membre de la diaspora guinéenne ou pas?
Au contraire, c'était une fierté pour moi aussi d'apporter mon expertise, mes conseils aussi.
Encore plus de souffle.
Ça me donne encore plus de souffle, effectivement. Et cette envie aussi, parce que tout est une question d'envie. Aujourd'hui, on peut s'investir pleinement en étant en France pour le continent africain, pour aider justement cette jeunesse qui est bouillante, qui est bouillonnante, qui a plein d'idées.
C'est ce que vous démontrez en tout cas en étant ici.
Exactement.
Atumata Magasa, vous, comment vous ressentez ces attentes qui peuvent peser sur vous ?
Moi, je dirais que quand on est une diaspora, on a un passif qui n'est pas tout à fait neutre et que ça peut être positif, comme quand, comme dans le cas de Diane Diallo qui vient de s'exprimer avec faire figure d'inspiration. Qu'on attende du financement, des opportunités, un retour d'expérience, etc. Mais ça peut parfois être perçu de manière négative, que ce soit le côté du pays d'accueil ou bien même le passif local, en lien avec l'histoire du pays, et que c'est potentiellement cause de problèmes. Mmh. Moi, je sais que j'ai eu à accompagner différents projets de membres de la diaspora qui faisaient face à des situations auxquelles ils n'auraient probablement pas eu à faire face s'ils avaient été un étranger. Classique.
À quoi vous pensez ?
Par exemple, des incubés qui viennent présenter leur projet à des partenaires locaux et qui, avant même d'entrer...
Donc en France, hein ?
Non, pardon, en Afrique.
En Afrique ?
Voilà. Et avant même de commencer à pitcher le projet, qu'ils se rendent compte que la personne qui les reçoit s'est déjà fait une opinion sur eux du fait de leur côté européen ou du fait de leur côté africain. Voilà. Donc, et ça peut potentiellement être difficile à gérer.
Des idées reçues,
parfois,
des préjugés.
Pas tout le monde.
Alors que la question des migrants est au cœur des politiques et des opinions publiques maintenant, qui se sont émues cette semaine du sort de l'Aquarius en Méditerranée ou encore de ces enfants séparés de leur famille migrante aux États-Unis, quelle lecture vous faites de ces événements en appartenant à des diasporas africaines, Stéphanie Assaré ?
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de flux migratoires, donc on vit dans un monde qui est global. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant avec le phénomène des diasporas, c'est qu'au début, c'était perçu de manière négative. C'est-à-dire que les diasporas, c'était le peuple qui s'était dispersé. Et aujourd'hui, on a réussi à retourner le sens. Aujourd'hui, la diaspora, c'est positif. La diaspora, dès que vous voyez le mot diaspora dans le nom d'une conférence, ça mobilise. Ça connecte, ça fédère. Et je pense que c'est aussi un moyen de montrer que l'immigration, c'est positif. Parce que dans cette immigration-là, il y a du potentiel. Dans cette immigration-là, il y a des idées qui vont changer le monde. Et donc, je crois que ça permet aussi de changer la perception qu'on en a de l'immigration. Donc moi, je suis vraiment pour les diasporas qui fassent de plus en plus... Voilà, qu'elles soient de plus en plus valorisées, qu'elles parlent aussi de plus en plus de ce qu'elles font.
Oui, et qu'on vous êtes définitivement une afro-optimiste,
oui,
hein, comme vous le disiez au début de l'émission. Mais Atumata Magasa, les drames de l'actualité des migrants aujourd'hui, est-ce que ça pose un problème pour l'image des diasporas ou ce sont, dans la tête des opinions publiques, des choses bien différentes ?
Je dirais que l'acte tel qu'il est, l'acte d'émigrer n'est pas négatif tel qu'il est, mais la manière dont il peut être dépeint par les médias, par certains groupe notamment, peut impacter négativement les diasporas, surtout dans un contexte où les diasporas sont... On commence à les voir de plus en plus, que ce soit dans des contextes européens, occidentaux, mais aussi africains, mais je dirais qu'elles ne sont pas... Elles ne bénéficient pas d'une surexposition non plus. Et que donc...
Parce que vous ne la recherchez pas, cette surexposition ?
Je dirais que c'est dû à différentes causes. Certaines personnes ne la recherchent pas. Certaines personnes... on ne la donne pas à certaines personnes.
Parce que vous avez peur parfois qu'on puisse vous reprocher un défaut d'intégration si vous communiquez sur votre appartenance et votre action pour vos diasporas respectives, ou pas ?
Je pense qu'on a vu certaines figures publiques se faire accuser de telles choses du simple fait qu'elles aient pris la parole, effectivement.
Au nom du diaspora, Diane Diallo.
Oui, c'est-à-dire que la question se pose à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, ça donne une mauvaise image à la diaspora. C'est-à-dire que la communauté française, ou bien en tout cas les Français, vont croire que, évidemment, ouais, l'Afrique est réduite à cette immigration massive dans les mers, les jeunes qui meurent dans les mers, évidemment, alors qu'il y a de belles choses qui se passent sur le continent. La seule chose que je déplore vraiment, c'est les politiques africaines aujourd'hui qui ne tiennent pas en compte. Et il n'y a même pas eu de médiatisation, il n'y a pas eu de prise de parole de la part des politiciens pour parler de ce phénomène-là. Des jeunes qui se font refuser en Europe, évidemment, ils se ballottent d'un pays à l'autre, personne n'en veut. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour que les jeunes restent sur le continent, pour qu'ils soient vraiment, parce que c'est l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, c'est sa jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que nos gouvernants africains aujourd'hui font pour ces jeunes-là, pour qu'ils restent sur le continent? Parce qu'il y a des potentialités. C'est le continent qui compte les terres arables les plus riches au monde. Et voilà, donc on ne devrait pas avoir la pauvreté en Afrique, je suis désolé. Donc s'il y a des stratégies, s'il y a des moyens qui sont alloués, ne serait-ce que pour exploiter les ressources agricoles, sans compter les ressources minières et minéralières, aujourd'hui, il ne devait pas avoir de chômage en Afrique. Et c'est ça qui est déplorable.
Alors, vraiment, en tout cas, aujourd'hui, les uns et les autres, que vous soyez entrepreneurs ou accompagnateurs d'entrepreneurs, vous menez des actions concrètes pour vos diasporas, pour que rétablir un lien concret avec le continent africain. Atoumata Magassa, vous qui donc êtes au cœur de cet incubateur Bondinov en banlieue parisienne, quelles sont les questions récurrentes qui traversent les diasporas africaines à l'heure actuelle, surtout dans votre génération de jeunes, de trentenaires?
Les problématiques des diasporas qui entreprennent,
oui.
Globalement, je dirais qu'elles correspondent à celles d'entrepreneurs de manière générale. Elles peuvent avoir des spécificités si le projet a un pied en Afrique et un pied ici, par exemple. Mais globalement, ce sont des problématiques d'entrepreneurs. Comment est-ce que j'impacte positivement, comment est-ce que je crée un projet viable, comment est-ce que j'impacte positivement soit mon pays d'origine, soit mon pays
de vie. Ça, ce n'est pas une problématique d'entrepreneur classique. Comment j'impacte mon environnement social et ma communauté d'origine, c'est bien spécifique à vous, membre des diasporas, non?
Oui, dans cette dimension, oui, en effet.
Et c'est toujours présent, ça?
Pas nécessairement. On a des projets portés par des diasporas qui ont vocation à être développés ici et qui ont vocation à y rester. Donc je pense que ça dépend aussi des sensibilités personnelles. Certaines personnes ne souhaitent peut-être pas nécessairement établir un projet en lien avec leur pays d'origine, et c'est leur choix individuel.
Ouais.
Si je peux me permettre, juste deux minutes, c'est-à-dire que sur cette question en fait de relations entre les diasporas et les jeunes qui sont restés en Afrique de manière globale, il y a une synergie aujourd'hui qui s'est créée en Europe de manière générale, c'est-à-dire cette diaspora commence à se mobiliser, commence à mettre des dynamiques, des synergies en commun. C'est ça qui va porter justement une énergie aussi pour dynamiser des produits non seulement au niveau européen, par pays, voilà, parce qu'il y a une structuration maintenant, même trans-pays entre la France et la Belgique et la Suisse. Et donc cette dynamique aujourd'hui, si on arrive à fédérer cette dynamique des diasporas ici, avec une dynamique qui émerge surtout en Afrique, avec des jeunes qui ont de l'ambition, qui ont aussi du talent, si on réussit à faire cet lien, et on réussira à faire vraiment beaucoup de choses et des projets vraiment au niveau mondial. Voilà.
Par rapport à l'innovation, l'innovation numérique, hein, on sait que sur le continent africain, il y a énormément d'innovation, du côté des diasporas aussi. Quel est le poids des diasporas dans l'innovation numérique sur le continent? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez un rôle à jouer là-dessus, Stéphanie Assaré?
Je crois qu'effectivement, on a un rôle à jouer parce que le numérique, ça permet aussi de rendre, je dirais, l'entrepreneuriat un peu plus égal. Dans le sens où, aujourd'hui, grâce à l'accès, par exemple, à Internet, les jeunes Africains ont accès à des informations auxquelles ils n'avaient pas accès forcément avant. Ils ont accès aussi à des données. Et c'est vrai que l'accès aux données, parfois, peut être vraiment très compliqué sur le continent. Notamment parce que on se rend compte que il y a un déficit au niveau de l'expertise. Et aujourd'hui, grâce au numérique, justement, grâce à Internet, les jeunes peuvent aller sur la toile et ils peuvent trouver ces informations dont ils cherchent. Donc, je pense que ça a vraiment permis d'ouvrir des portes. Et je crois que c'est vraiment, un point sur lequel on doit continuer à travailler pour que le continent puisse véritablement mettre en lumière son potentiel.
Mais est-ce que vos profils biculturels, votre métissage favorisent l'innovation, cette capacité d'adapter des technologies de l'extérieur pour les usages africains, par exemple?
Il y a une étude, il me semble, du Boston Consulting Group qui a démontré que les entreprises africaines qui réussissaient le mieux sont celles qui ont des managements internationaux. Donc je pense que justement le fait d'avoir la capacité à piocher dans différentes cultures, d'avoir connaissance de différents contextes, de différentes cultures, c'est une richesse et que ça peut permettre d'ajouter un petit plus justement dans l'adaptation de certains projets, la compréhension de certains besoins et la manière dont au final on va les adresser.
Oui, en fait, c'est une complémentarité, comme je disais tantôt, c'est-à-dire que les diasporas, l'expertise des diasporas, par exemple, peut apporter un regard sur la spécificité du détail. Parce que pour qu'un projet soit visible, pour qu'il soit impactant à l'échelle internationale, il faut qu'il soit viable et surtout sur le petit détail qui va faire la différence. Donc cette diaspora a acquis cette expertise en Occident, qu'elle peut apporter justement à cette jeunesse africaine qui a aussi des capacités, mais qui manque peut-être d'un regard extérieur, d'un regard international. Et cette expertise va apporter ces plus-values-là, pour donner, pour que la chaîne de valeur soit cohérente avec ce qui se passe en Occident, pour qu'il soit plus viable. Et c'est ce détail qui va rendre exceptionnel justement tous les projets innovants, qui va les rendre encore, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, plus visibles.
Alors justement, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on donne la parole à Samir Abdelkrim, qui est fondateur de la start-up Brix, qui est une société spécialisée dans l'innovation en Afrique. On parle du rôle des diasporas africaines aujourd'hui. Comment peuvent-elles participer au développement du continent ?
I'm an African, African. Tutu ki di ngolo mulunga. Yeto tu na ngolo ngazi. Na yembazi. Tuki nanga monango mayazi kulozetu ziletu kontwala.
Soki chez 7 milliards de voisins, African Sunrise. Voilà, définitivement une émission afro-optimiste aujourd'hui, comme vous vous qualifiez, Stéphanie Assaré. On est ensemble pour évoquer le rôle des diasporas africaines sur l'avenir du continent africain. Stéphanie Assaré, vous êtes née en France de parents guinéens.
Ghanéens.
Et vous vous occupez de Welcoming Diaspora, qui est une organisation créée par des afro-optimistes issus de la diaspora. Toumata Magassa, vous êtes avec nous également. Né en France de parents maliens, spécialiste du financement et de l'accompagnement des start-up et entreprises africaines avec cet incubateur Bondinov qui a été créé par la ville de Bondi, et vous accompagnez des jeunes de la diaspora mais qui n'ont pas forcément un projet pour pour leur continent d'origine. D'ailleurs, vous nous le disiez juste avant la pause musicale, c'est pas une obligation non plus de vouloir peser sur sa communauté d'origine, surtout si on est né en France, après tout. Diane Diallo, vous êtes guinéen et vous avez créé un champagne de non africain fabriqué en France, vendu à des Africains. Vous nous direz aussi ce qui le différencie des autres champagnes. En tout cas, il s'appelle Diane Diallo. Déjà, le nom, c'est assez singulier. Et nous accueillons maintenant Samir Abdelkrim, qui est fondateur de la start-up Bricks, une société spécialisée dans l'innovation en Afrique. Bonjour Samir Abdelkrim.
Bonjour.
Quel est votre parcours en quelques mots ?
Alors moi, effectivement, on peut dire que je fais partie de cette diaspora. Donc je suis français, né en France, d'origine algérienne. Mes parents sont venus de Kabylie dans les années 70 pour s'installer au Havre. Et j'ai grandi au Havre. J'ai aussi grandi à Amiens. J'ai fait une partie de mes études à Amiens en Picardie. Puis je suis arrivé à Marseille. En 99, juste après la Coupe du Monde, et à partir de là, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets africains, méditerranéens, d'innovation, de start-up, pour plusieurs organisations, dont la Commission européenne, et j'ai ensuite entrepris un travail un peu à la fois de recherche, en même temps très très tourné vers l'entrepreneuriat, qui était un tour d'Afrique finalement, des innovations, des start-up, pendant 3 ans. Et ça m'a permis aussi de toucher une autre manière, l'engagement entrepreneurial et diaspora. Donc j'en ai fait un livre qui s'appelle Startup Lion, qui est préfacé notamment par Xavier Niel et Tidi Ndem, et dans lequel je consacre un passage important sur ces diasporas africaines, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, qui reviennent pour participer à l'émergence d'écosystèmes d'innovation. Oui,
version 21e siècle. Donc, je le disais au début de cette émission, autrefois, les membres des diasporas ambitionnaient, d'ailleurs c'était très louable de construire une école au village, c'était souvent ça quand on leur demandait. On a l'impression que ça a vraiment beaucoup changé aujourd'hui, non, Samir Abdelkrim?
C'est-à-dire que là aujourd'hui, concrètement, à l'heure du numérique, et précisément en Afrique, où le numérique a fait une irruption dans le quotidien des Africains des années 2000, c'est-à-dire qu'avant les années 2000, les années 90-80, il n'y avait pas de téléphone, c'est le mobile qui a véritablement changé la donne et qui a donné un pouvoir d'action et un pouvoir de transformation sur le quotidien grâce à l'Internet, grâce à l'innovation technologique. Et il y a des pays aujourd'hui qui sont vraiment mis en avant comme étant notamment des hubs, des villes, qui sont mis en avant comme étant les écosystèmes les plus dynamiques d'Afrique. Si on prend par exemple un exemple intéressant, c'est le Nigeria, Lagos. Aujourd'hui, Lagos, l'écosystème start-up de Lagos, c'est celui qui est valorisé à 2 milliards de dollars en termes de valeur créée par les start-up. Il faut savoir qu'il y a 10 ans...
C'est aussi la plus grosse communauté qui reçoit le plus de sa diaspora. Il faut dire aussi que c'est le pays le plus peuplé du continent, donc c'est aussi un peu logique. Et quand on dit d'ailleurs que l'argent des diasporas a augmenté ces 10 dernières années, c'est aussi parce que les diasporas ont cru de manière démographique aussi. Il y a plus de membres des diasporas en Europe ou aux États-Unis. Le Nigeria a reçu 22 milliards de dollars par ces migrants en 2017, selon un rapport de la Banque mondiale. Après, on trouve loin derrière le Ghana, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc. Voilà un peu pour le palmarès.
Tout à fait. Et il y a aussi des actions. Donc, il y a effectivement les corridors financiers, les transferts.
Oui, les transferts de fonds.
Qui sont absolument structurants. Et des pays comme le Rwanda, le Maroc, ça représente plusieurs dizaines de pourcents de PIB. Enfin, en tout cas, ça représente une valeur très importante du PIB, en pourcentage du PIB. Mais ce qui est intéressant par rapport à Lagos, si j'ai 2 minutes, c'est de voir que ce sont des membres de la diaspora. En fait, ce sont des Nigérians de quartiers populaires qui ont fait leurs études à Lagos, notamment dans le quartier de Yaba Tech, donc dans les technologies, et qui ont ensuite eu un parcours dans la suite de leurs études en Europe. Oui. Et là, principalement à Londres, et qui ont voyagé, qui ont travaillé sur des programmes internationaux d'innovation, qui sont partis en Asie, qui sont partis dans la Silicon Valley, et qui sont revenus, en fait, qui ont fait le choix de revenir, alors qu'il n'y avait pas d'écosystème, il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas de tech hub à Lagos en 2009-2010, et qui ont ensuite se sont réunis pour créer les premiers hackathons, créer les premiers tech hubs, faire cette espèce d'amorçage par rapport à tout ce qu'ils ont appris à l'international, les nouvelles méthodologies business, leurs contacts, les bonnes pratiques. Ils ont vu, par exemple, naître les premiers Startup Weekend un peu partout dans le monde et ils ont voulu rapporter ça au Nigeria. Et le résultat, c'est que ça a véritablement fait naître, éclore un écosystème, les premiers incubateurs comme le CC Hub, Procreation Hub, qui est né d'un hackathon, d'un simple hackathon qui a rassemblé une centaine de personnes.
Alors un hackathon, juste en quelques mots, dites-nous en quoi ça consiste.
Bah, c'est un challenge, c'est-à-dire que on réunit autour d'un problème à résoudre concret. Alors là, en l'occurrence, des problèmes fondamentaux.
Et on met de l'argent dessus.
Voilà, c'est-à-dire que les équipes finalistes, en général, il s'agit des trois premiers, reçoivent un accompagnement, reçoivent un prix financier s'il y a un petit peu de cash, s'il y a des sponsors qui se motivent. Et pour pouvoir faire passer de l'idée au business. L'idée, c'est de pouvoir avoir un prototype.
Juste une dernière question, Samir Abdelkrim. Après, on va donner la parole à nos invités qui vont réagir par rapport à ce que vous avez dit. Mais là, vous citiez le cas de diaspora nigériane qui revenait pour investir au Nigeria et qui était vraiment les pionniers, finalement, dans un monde qui était encore un peu le Far West il y a quelques années sur les startups. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce que la question de habiter ici ou là-bas est encore une vraie question ? Parce que quand on parle de diaspora, on parle bien de personnes qui ont construit leur vie en Europe ou en Amérique du Nord. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore un sens de parler du lieu d'habitation ?
Tout à fait. C'est-à-dire que la diaspora, et là, si on prend la diaspora d'Afrique du Nord, algérienne, marocaine, tunisienne, égyptienne, que j'ai eu l'occasion d'étudier, cette diaspora très qualifiée, on en retrouve énormément dans la Silicon Valley. On retrouve beaucoup d'entrepreneurs à succès algériens, marocains en Californie, qui ont monté des startups, qui ont fait des exits, qui ont réussi et qui décident en fait d'aider leur pays d'origine tout en restant dans la Silicon Valley.
C'est ça. Après une logique d'aller-retour. Merci beaucoup Samir Abdelkrim. Comment vous réagissez les uns et les autres là par rapport à ce que vous venez d'entendre ? Parce que Diane Diallo, je posais cette question sur habiter ici ou là-bas. Oui. Vous êtes un peu
c'est-à-dire qu'on
entre deux chaises. Comment
c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on peut habiter en France, comme je disais tantôt, tout à l'heure. Donc on peut habiter ici et avoir un impact vraiment considérable sur le continent africain.
Votre champagne aujourd'hui, vous le commercialisez en Afrique.
Exactement.
Vous vivez combien de mois par an en Afrique, du coup, vous commercialisez quoi, vos premiers pays là depuis un an où vous vendez votre champagne ?
Alors, le premier pays, c'est la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, et il y a le Nigeria qui va arriver très bientôt. Ouais. Après, l'Afrique du Sud, bien entendu, le but, c'est d'avoir tous les pays.
Et combien de jours par an en Afrique, du coup ?
Alors, pour l'instant, c'est le début. Donc, évidemment, je suis parti deux fois pour l'instant, en l'espace de deux mois à peu près. Et donc, du coup, l'idée, ce serait non seulement d'avoir une expertise sur le continent européen, n'est-ce pas, de mobiliser aussi des diasporas, les sensibiliser aussi à travailler non seulement à partir de la France, pour mobiliser des épargnes pour investir sur le continent africain. Et en ce qui concerne le champagne, évidemment, il y a un gros marché en Afrique. C'est le continent qui a le taux de pénétration de plus de 15% de taux de croissance annuel. Donc c'est énorme, c'est un marché très émergent en Afrique. Tous les grands groupes, les grandes maisons de champagne l'ont compris. Et donc voilà, donc il y a un marché émergent parce que les Africains sont des grands consommateurs de luxe. Et donc c'est de dire aussi aux diasporas, aujourd'hui, au lieu d'envoyer de l'épargne pour des consommations quotidiennes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire du transfert de fonds tel qu'on le connaissait autrefois.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de mobiliser des fonds ici pour créer de la valeur ajoutée sur le continent. Et non pour dépenser au quotidien, aller acheter à manger. Non, il faut transformer cette structure.
Oui, on ne va pas non plus donner l'image d'un continent africain qui ouvre, débouche des bouteilles de champagne à chaque repas, parce que c'est quand même pas tout à fait la réalité. Néanmoins, vous avez raison de dire qu'il y a une classe très aisée, émergente, et pas que au Nigeria. Sinon, tous les producteurs de champagne des alentours de Reims ne se rueraient pas dans les avions pour aller faire des escales dans des capitales comme Libreville, Abidjan, etc., ou Brazzaville. Votre champagne est fabriqué en France, c'est bien cela.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, en dehors du fait qu'il porte votre nom, Diane Diallo ?
Alors, le champagne Diane Diallo a commencé avec l'expertise que j'ai eue avec les grandes maisons. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans pour des grandes maisons de champagne. J'étais, pour la fin, les 4 dernières années, en tant que brand ambassadeur de Moët & Cie, pour Moët & Chandon, Veuve Clicquot-Ruinart. Et justement, cette expertise m'a permis de faire une étude de marché et de constater que les Africains partaient par défaut sur des champagnes sucrées, des demi-secs. Mmh. Donc, ce sont des types de champagnes, des gammes de champagnes qui sont en déclin en Occident parce qu'ils sont trop sucrés.
Donc, en gros, et il n'y avait pas de fabricants de champagne voilà. capables de fabriquer des champagnes au goût des consommateurs en Afrique.
Voilà. Et donc, moi, j'ai adapté l'une de mes gammes, parce que j'ai 4 gammes de champagne, donc l'une de mes gammes a été adaptée aux mains des Africains, c'est-à-dire qu'il va être légèrement plus sucré qu'un brut classique pour arriver à enlever l'acidité dans le brut. Mmh. C'est ce qu'il n'aimait pas dans le brut, évidemment, parce qu'il attaque un petit peu le palais.
Ouais.
Donc, en rajoutant un petit pourcentage de sucre, justement, on enlève cette acidité, et tout en restant moins sucré qu'un demi-sec qui est aujourd'hui publicité sur le continent et qui n'est pas aussi agréable
pour
la santé.
Pourquoi vous avez voulu devenir entrepreneur alors que vous aviez des bons jobs dans le secteur du luxe, dans de grandes maisons de champagne, et où d'ailleurs vous étiez sur les circuits africains, hein, d'ailleurs, pour ces grandes maisons. Pourquoi vous avez voulu devenir vous-même entrepreneur? Est-ce que vous ressentiez un plafond de verre dans les entreprises en France en étant africain?
Tout
par
à
rapport
fait.
À votre progression.
Exactement, parce que quand on est salarié, bien entendu, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la maison ou dans laquelle on travaille. C'est-à-dire qu'il y a des directives à suivre. Et en étant entrepreneur, bien, évidemment, on peut gérer et on peut impulser davantage selon nos envies.
Atoumata Magassa, est-ce que cette question-là, c'est une question qui revient ou pas? Cette sensation de plafond de verre des diasporas africaines dans un pays comme la France quand les jeunes sont salariés dans des entreprises?
Oui, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes, et plus qu'un sentiment, une réalité. J'ai moi-même dans mes connaissances, ou bien dans le cercle familial, des personnes qui ont émis ce genre de constat, qu'elles travaillent, qu'elles ont du mérite et des réalisations tangibles, parfois
plus
que d'autres. Oui, des diplômes et parfois des réalisations plus importantes que d'autres collègues qui pourtant ont des promotions. Enfin voilà, la décision ne leur semble pas tout à fait
du
justifiée.
Du coup, entreprendre pour soi-même, pour sa communauté d'origine, ça prend d'autant plus de sens?
Oui, dans ce contexte-là, oui, tout à fait.
Et pour vous, comment vous voyez les choses, Stéphanie Assaré?
Moi, je dirais qu'effectivement, la question du plafond de verre, comme elle l'a dit à tout matin, c'est une réalité. Après, je pense que...
Donc, le plafond de verre, pour ceux qui découvrent l'expression, hein, c'est ce sentiment, c'est une métaphore d'avoir un plafond de verre au-dessus de la tête et on aimerait bien pouvoir le crever pour continuer à avancer sa carrière professionnelle. Mais le fait d'être issu d'une diaspora africaine sur un continent européen, et en particulier en France, parce que les Africains qui sont en Grande-Bretagne le disent, en parlent beaucoup moins de ce plafond de verre, ça peut créer une frustration.
Effectivement, ça peut créer une frustration. Après, je pense que c'est pas forcément ce qui pousse directement à entreprendre. Je crois que ça en fait partie, mais quand quelqu'un a une idée, quand quelqu'un a une vision, je crois que il est obsédé, on va dire, par cette vision parce qu'il sait que ça peut se manifester, que ça peut être réel. Et je crois que le fait aussi, pour certains d'entre nous, de s'être rendu sur le continent, d'avoir vu les choses qu'il fallait faire, d'avoir vu que aussi c'était possible de faire les choses, nous a poussé aussi à entreprendre. Pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc je dirais pas que on entreprend à cause du plafond de verre. Je dirais que ça en fait partie, mais c'est pas la raison principale. On entreprend parce qu'on a envie de voir les choses changer, parce qu'on sait qu'il y a du potentiel sur le continent et qu'on a envie justement d'accompagner le continent justement dans son développement économique.
Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais vous laisser écouter un message d'un de nos auditeurs, Alain à Cotonou, qui a posté sur WhatsApp.
Bonjour les voisins, les voisines, bonjour RFI. Pour moi, le rôle des diasporas pour développer l'Afrique est que nos frères et nos sœurs qui sont en Europe n'ont qu'à penser surtout à leurs petits frères, à leurs familles qui existent en Afrique. Comment ils peuvent développer leur vie? Parce que les frères et sœurs qui se traînent dans le quartier, dans les banlieues, dans les ghettos, contraints de vaurien aujourd'hui, ils peuvent venir en Afrique ou dans leur pays, créer quelques entreprises ici pour embaucher les jeunes qui ne trouvent pas affaire ici aussi. Et ce n'est pas forcément nous aussi, on va quitter l'Afrique pour aller au pays lointain, aller chercher nos bonheurs. Le bonheur se trouve en Afrique toujours. Merci beaucoup et salut les amis.
Atumata Magasa, vous qui participez au développement de cet incubateur Bondinov en banlieue parisienne, comment vous recevez le message de ce voisin Alain Akotonou qui ne mâche pas ses mots pour parler de certains jeunes de banlieue en France?
Ce message tout d'abord me fait sourire puisqu'il dit que le bonheur se trouve en Afrique, mais également je suis assez d'accord avec son constat, les jeunes qui traînent dans les quartiers, qui ne trouvent pas à faire, etc. D'après la Banque mondiale, chaque année, on a 10 à 12, 13 millions de jeunes africains qui entrent sur le marché du travail. Ce sont des jeunes qui actuellement n'ont pas la capacité à se faire absorber par le marché du travail, et dès lors, l'entrepreneuriat peut constituer l'une des solutions pour créer de l'activité économique et donc de la valeur sur le continent.
En l'occurrence, il parlait aussi des jeunes des banlieues en France.
Oui, également.
Vous y croyez à des jeunes des banlieues qui parfois n'ont plus aucun lien avec leur continent d'origine, si ce n'est la couleur de leur peau?
D'après mon expérience personnel, non. Enfin, je ne connais personne qui est dans ce cas.
C'est-à-dire
Des personnes qui n'ont... Quand on émigre, on part avec sa culture, on part avec une langue, on part avec des choses. Donc, enfin, le lien, enfin, on a beau vivre en France et d'une certaine manière, de manière française, mais dans les cellules familiales, on a toujours une dimension culturelle très, très africaine. Enfin, à mon sens, c'est ce que j'ai pu constater de mon parcours
néanmoins,
personnel.
Néanmoins, il y a des jeunes qui ne reviennent jamais sur le continent africain pour des raisons financières d'abord, et puis aussi par peut-être manque d'intérêt, je ne sais pas, qui sont nés en France, qui ont grandi dans des quartiers métissés, multiculturels, mais qui n'ont pas envie de revenir sur le continent africain, y compris pour un séjour court, ou pour entreprendre, ou pour s'investir dans la communauté de leurs parents. C'est plus forcément leur histoire.
Effectivement, c'est-à-dire que moi, si je peux me permettre d'intervenir une minute, c'est-à-dire par rapport à cette problématique des jeunes qui sont nés dans les banlieues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont lâché le train, comme on peut dire, par exemple, dans certains banlieues où il n'y a pas de solution, ils pensent n'avoir pas de solution. Moi, je reçois des jeunes qui viennent dans mon lodge à Paris pour me demander du travail parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Voilà. Mais aujourd'hui, en France, c'est l'un des pays qui permet le plus de transformer, disons, un salarié ou bien quelqu'un qui est un chômeur en entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a des accompagnements possibles, il y a des financements disponibles. Ils peuvent créer, ils sont accompagnés, c'est justement Atumata et les structures qu'ils ont aujourd'hui en banlieue, justement de Bondi, peuvent leur permettre de sortir de cet isolement, les renseigner comment fonder une entreprise, comment aussi aller sur le continent africain.
Et d'ailleurs, il faut préciser que Bondinov a 84% de taux de survie pour les jeunes entreprises que vous accompagnez, donc plutôt un peu plus.
En effet.
Nettement plus même, puisqu'on sait que les jeunes start-up échouent beaucoup dans les 5 premières années de leur vie.
On parle de 90% de taux d'échec des startups dans les 5 premières années.
Et vous, ça marche? Alors, c'est parce que vous accompagnez des jeunes super motivés?
Je pense que c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Je pense que pour entreprendre, il n'existe pas de recette magique pour entreprendre. On ne peut pas assurer le succès à un projet entrepreneurial. Ceci dit, toutes les startups, entreprises, les licornes, tous les projets entrepreneuriaux qui ont réussi se sont fait accompagner d'une certaine manière. L'accompagnement est donc clé. Ça, c'est un message que je souhaite faire passer
en France et sur le continent. Partout, africain.
Partout.
Et ben merci à vous tous. Je rappelle que le Forum des diasporas africaines, ça se tient aujourd'hui à Paris, ce vendredi, donc au Palais des Congrès. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau chez 7 milliards de voisins. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre et vous dirigez la revue transculturelle L'Autre. Chaque semaine, ou presque, vous évoquez des sujets de vie quotidienne et qui concernent bien sûr les parents, les enfants, les adolescents. Aujourd'hui, pourquoi les enfants mentent parfois? Il y a des enfants qui mentent même très souvent, je dirais, et d'autres jamais. C'est assez curieux ce rapport au mensonge chez les enfants.
Mais oui, effectivement, est-ce qu'on peut parler de mensonges? Alors, c'est vrai que ça agace les parents, parfois les enseignants également. On se dit, mais pourquoi ils changent une information? Pourquoi ils transforment le monde?
Alors, attendez, il y a quand même des enfants qui disent, je n'ai pas fait mes devoirs parce que ma grand-mère est morte, et c'est totalement faux, par exemple. Ça s'appelle bien un mensonge, on est d'accord.
Alors, ça s'appelle bien un mensonge, mais pas toujours en réalité. Parce que je vais peut-être prendre un exemple pour dire combien cette transformation du monde, ce rapport au rêve et à la réalité chez les enfants, ses limites, ça se construit. Alors donc, à certains moments, il y a des choses qui sont intermédiaires. Alors bien sûr, je peux parfois transformer, par exemple, pour pas que ma mère soit en colère, pour pas que ma mère me prive d'anniversaire. Mais il y a plein de situations où en réalité, c'est juste une expérimentation. On essaye de voir. Par exemple, je me souviens de Claire, qui était une enfant adoptée au Brésil. Elle est arrivée chez ses parents adoptifs alors qu'elle avait 9 mois, donc toute petite. Et alors qu'elle avait 6 ans, je la rencontre à l'occasion d'une petite difficulté à l'école, pas grand-chose. Mais les parents disent, mais en fait, le vrai problème, c'est que Claire ment tout le temps. Et alors, donnez-moi un exemple. Eh bien, l'autre jour à l'école, elle a dit à ses camarades que ses parents étaient noirs comme elle. Donc, elle est très foncée de peau. Une autre fois, elle a dit également qu'elle avait plein de frères et sœurs. Ils dormaient tous dans la même chambre. Alors, bien sûr, comme Claire est adoptée, on pourrait se dire, ah ben voilà, elle parle de sa vie antérieure. Non.
Donc, ce qu'elle raconte est faux.
Tout ce qu'elle raconte
est
imaginaire.
Elle est la seule, elle n'a pas de frères et sœurs. Elle est adoptée, elle a des parents blancs.
Voilà.
Donc, tout est faux.
Et elle vit dans une grande maison dans le centre de Paris.
Et pourquoi donc?
Et parce qu'elle se demande si dans une autre vie, avec des parents noirs, avec plein de frères et sœurs, elle serait différente, ça serait la même. Un mensonge entre guillemets, les adultes l'appellent comme ça, encore plus fréquent, c'est dans l'autre sens. C'est en fait d'inventer le fait qu'on a été adopté, alors que c'est ses parents biologiques, et on le sait. Alors ça porte même un nom chez les spécialistes, on appelle ça le roman des origines, c'est-à-dire qu'on se... On se fait un roman.
Mais qui ont fait pour des enfants qui ne sont pas forcément adoptés d'ailleurs.
Ah non,
pour
non, non,
tous les
non.
enfants. Ça veut dire que les enfants s'inventent des vies. Mais si les enfants s'inventent des vies, ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience que c'est mal de mentir?
Alors, oui, ils s'inventent des vies. Ça, c'est une bonne expression. Ils s'inventent des vies, ils s'inventent des possibles, ils s'inventent des imaginaires. Et ils essayent de voir aussi si la vie qu'ils ont leur correspond bien d'une certaine façon. Alors, oui, ce n'est en aucun cas, et c'est pour ça qu'à mon sens, ce n'est pas du mensonge, parce que ça n'a rien à voir avec la catégorie bon, mauvais. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Et donc, ce n'est pas un mensonge. C'est juste une expérimentation. Et si j'imaginais que ce père et cette mère étaient différents, est-ce que ça serait plus cohérent pour moi? Est-ce que ma vie serait plus consistante? Est-ce que je serais la même personne?
Alors, conclusion, il ne faut pas plaquer un sens moral sur tous les mensonges des enfants?
Ah non. Le sens moral, ça s'acquiert. Donc, pour s'acquérir, il faut essayer, il faut chercher, il faut voir qu'est-ce qui se passerait si c'était exactement le contraire. Donc, le bien et le mal, c'est une acquisition. Alors,
donc, juste en une phrase pour les parents qui nous écoutent, un enfant qui ment avant 10 ans, qu'est-ce qu'on lui dit?
Si c'est des petites choses, rien. On s'émerveille devant son imagination. Si c'est des choses qu'il met en danger ou qui mettent en danger quelqu'un d'autre, alors là, on lui dit « ah non ».
Merci Marie-Rose Moreau, on vous retrouve très prochainement. Vous avez publié notamment « Nos enfants demain » aux éditions Odile Jacob et vous dirigez la revue transculturelle « L'autre ». À très bientôt Marie-Rose.
À bientôt.
Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianus, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique magazine, ou nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain, avec comme chaque mois les conseils du coach Didier Akwété. C'est très simple, vous nous envoyez vos projets, vos business plans, et surtout vous vous préparez à exposer clairement vos difficultés. Si vous avez déjà démarré votre entreprise, si vous êtes en phase de réflexion, Didier Akwété vous écoute, répond à vos questions. Surtout appelez-nous dès maintenant pour participer à l'émission de lundi, 33 1 84 22 71 71, ou sinon une adresse mail 7milliards@rfi.fr. À lundi les voisins et les voisines.